diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You bellow, but your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shrew. You midsummer dreaming, the tunes ain't appealing. I'm capturing your money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well, the ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Do it as you like. You much ado about nothing. What you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like the release
of time. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 30 mars 2016. Il est 19h passé de 3 minutes. C'est l'heure du Canu Info.
Le 30 mars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la veille du 31 mars, la veille de la plus grosse, de la plus gigantesque manifestation contre la loi travail. Et donc, on va commencer par ça.
Après, on parlera de l'agneau écartelé sur la table.
Hollande renonce à la déchéance de nationalité.
BFM et sa vision de la violence des flics.
Une petite histoire d'un braqueur relâché suite à une erreur de procédure.
Évacuation d'un campement de migrants à Paris.
Prison Insiders, un site pour parler des prisons.
Allemagne, un néo-nazi sauvé par des réfugiés.
Et la sortie du livre de Ouya Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous.
Et bien sûr, on commence par parler des manifs de demain. Et avec un point de vue singulier, donc on pourrait dire Mars et ça repart. Et ben c'est un des noms d'un communiqué des occupantes de la ZAD qui appelle à la manif du 31 mars. Alors je vais vous lire quelques extraits donc de deux textes. Donc l'un qui s'appelle Mars et ça repart et l'autre On veut 100 balles et le mois de mars.
Joli.
Des jolis jeux de mots. Hein,
beaucoup d'inspiration sur la ZAD.
Voilà, et donc, c'est parti alors. Donc, après 3 semaines de manifestations dans les rues de Nantes et partout en France, cette journée du 31 mars se présente à nous sous d'étranges auspices. Comme chacun le sait, la manifestation qui réunira des dizaines de milliers de personnes prendra 2 colorations. Une plus syndicale, avec son cortège de drapeaux, de slogans et avec son inénarrable service d'ordre, et une autre plus spontanée, avec une part importante de la jeunesse nantaise, sans doute un peu de casse et le désormais fameux face-à-face avec les forces de l'ordre. Il y a dans cette répartition une forme de fatalité. Quand les uns sont condamnés à suivre la sono qui répète en boucle les mêmes chansons depuis 15 ans, les autres vont affronter.
Motivé.
Les autres vont affronter désarmés un dispositif policier qui à Nantes détient depuis des années la médaille d'or des mutilations. Quand les premiers se résignent déjà à l'idée que le 31 soit le point d'orgue du mouvement, les seconds tentent d'organiser les conditions pour en faire le point de départ. À cette série de fatalités, brise à répétition depuis 15 ans le sens des mouvements et emporte avec elle la mémoire des luttes victorieuses. Nos retraites en savent quelque chose. Pourtant, tout porte à croire que les raisons qui nous conduisent dans la rue ne sont pas si éloignées. On descend dans la rue d'abord parce que depuis le début de ce nouveau siècle, les gouvernements nous font sentir, loi après loi, la lente descente vers la précarité sociale. On descend dans la rue ensuite, parce qu'aucun gouvernement ne parvient plus à dissimuler le mensonge qui a toujours été la politique classique. Exemple après exemple, gouverner n'est jamais aujourd'hui que faire croire au peuple que les temps vont être durs. Je vous lis un peu, parce qu'il est assez chouette ce texte quand même. Hein. On descend dans la rue encore, car aéroport après barrage, on nous a habitués ces dernières années à défendre nos territoires. Et enfin, si on descend dans la rue, c'est parce qu'on nous somme depuis des mois maintenant de rester chez nous pour la sécurité de la nation. D'état d'urgence en assignation, personne ne nous fera oublier qu'aujourd'hui les armes, c'est la police qui les détient et qui les utilise contre nous. Sur cette base, il faut briser la fatalité, la briser pour de bon. Donc ici à Notre-Dame-des-Landes, des années de lutte nous ont appris que se tenir ensemble malgré quelques désaccords stratégiques, apprendre à assumer la part débordante d'un mouvement, l'accompagner quand il le faut, c'est lui donner toutes les chances de devenir victorieux. On a appris que l'État ne craint jamais ceux qui emportent le changement. Il il ne craint que ceux qui défient son autorité. Alors, un deuxième extrait du deuxième article, On veut 100 balles et le mois de mars. Pour nous, il est indispensable de manquer à l'appel... Il est impensable, pardon, de manquer à l'appel du premier mouvement d'ampleur depuis la réoccupation de la ZAD. Nous sommes présents dans les AG, à la fac, sur les actions dans la rue et l'occupation de l'amphi à Nantes depuis le 9 mars. Nous voulons être force de proposition, faire profiter de la force logistique, stratégique, matérielle et critique d'une lutte qui a su s'émanciper et de l'éphémérité des mouvements habituels. Nous sommes parfaitement conscients du traitement que cette loi réserve aux salariés et les souplesses qu'elle offre aux entreprises. Nous pensons que ce type de loi est nécessaire pour la bonne marche de l'économie libérale et ce n'est pas pour rien que les gouvernements successifs de gauche comme de droite tentent d'en passer tous les 5-10 ans depuis 30 ans, que ce soit par des réformes liées au contrat de travail directement, par le retardement du départ en retraite ou la libéralisation des universités. Nous refusons l'idée que notre emploi du temps soit régi par la loi de la plus-value. Se borner à lutter uniquement contre cette loi, c'est lutter contre le moins pire, alors que nous voulons le meilleur. D'état d'urgence en déchéance de nationalité, de projet d'infrastructure en loi liberticide, d'expulsion de migrants en expropriation d'habitants, le gouvernement nous arrache chaque jour la possibilité de décider des conditions de notre existence. Le sens d'une convergence, c'est qu'il faut trouver une réponse aux multiples affronts qui sont menés. Nous relayons donc l'appel à cibler le Parti Socialiste. Entre lui et le mouvement, il y a la police. Tenons-la en respect. La convergence entre les différentes luttes nous renforce mutuellement. D'ailleurs, les craintes de Cazeneuve quant au rapprochement de la ZAD avec les étudiants ne fait que nous conforter dans notre décision. Un peu partout, c'est une critique plus fondamentale du système qui surgit. Et donc, il conclut, pour qu'en mars, ça repart, soyons plus nombreux, plus déterminés et surtout plus organisés pour la manif et l'occupation du 31 mars, qui ne peut être que le début du mouvement. Qu'on nous expulse le 31, on reviendra le 32, car le mois de mars ne s'arrêtera pas comme ça. Voilà, voilà. Et donc, bah, pour Lyon, manifestation demain à 13h30, manufacture des tabacs et nuit rouge. Le soir du 31 mars, on restera dehors et sans perspective de négociation. On prendra ce qui peut être occupé, on se mettra à la recherche de tout ce qui peut faire exploser les limites de la mobilisation actuelle. Voilà, c'est un petit extrait d'un texte que vous pouvez trouver d'appel sur rebellion.info. Et également, vous pouvez télécharger le FAC en lutte. C'est un journal numéro 4. Et, on le trouve sur le site solidaire-étudiant.org. Et donc, c'est un peu un récit de cette dernière semaine dans les campus universitaires en France.
Donc on le rappelle, demain c'est rendez-vous à la manufacture des tabacs, c'est comme ça qu'on dit, hein, à 13h30. Et bien pour celles et ceux qui iront manifester, je vous propose quand même d'apprendre un certain vocabulaire qui sera utilisé pour en fait parler de ces manifestations. C'est un vocabulaire qui sera utilisé en particulier dans un grand nombre de couches journalistiques. Alors essayez d'apprendre ça par cœur, hein, parce que ça va vous mettre dans le droit chemin. Alors, une réforme. Quand une réforme, alors je précise quand même que c'est cynique, hein, et que c'est un lexique qui a été trouvé sur le site Acrimed, Action Critique Média, pour un petit peu chatouiller nos esprits sur les façons dont les journaux convergent dans un sens. Alors réforme, quand une réforme proposée est imposée, cela s'appelle la réforme, et s'opposer à cette réforme devient le refus de réforme. Alors on ne dit plus... Les travailleurs combattent les politiques libérales qui favorisent chaque jour davantage les revenus du capital. On écrit une autre chose dont on peut être sûr, c'est la nature difficile des rapports sociaux en France. La conflictualité l'emporte sur le consensus, ce vieil héritage de la culture ouvrière du 19e siècle, du côté des organisations syndicales crispées sur la défense des droits acquis. Voilà. OK ? Donc ça commence. Alors après, les réformistes... en fait, ça désigne ou qualifie les personnes ou les syndicats qui soutiennent ouvertement les réformes gouvernementales. C'est les partisans d'autres réformes qui constituent cela, par contre, un front de refus. Donc les réformistes, c'est les gentils, Hein, alors, je ne sais pas s'ils seront dans les manifestants demain, mais c'est la CFDT, etc. J'assiste, hein, c'est toujours sinistre, cynique tout ça. Alors, modernisation, comment on en parlera dans les médias? C'est synonyme de réforme, bien sûr. Donc, la modernisation permet d'être moderne. Et pour être moderne, il suffit de moderniser. Donc, le modernisme s'oppose à l'archaïsme. Et seuls des esprits archaïques peuvent s'opposer à la modernisation. Donc, c'est peut-être ces esprits-là qui seront dans la manif. C'est peut-être ça qu'on nous dira. Et seuls des esprits tout à la fois archaïques et réactionnaires peuvent avoir l'audace et le mauvais goût de proposer, de subordonner la modernisation au progrès social. Voilà, ça c'est malheureusement ce qu'on risque de voir demain aussi dans les journaux. Alors, le dialogue social, c'est quoi ? Se dit des rencontres où un ministre parle au syndicat. Voilà, donc c'est dans un sens. Hein. Le dialogue social, c'est les ministres qui parlent comme ça. Super. Un autre terme dont on entendra parler, j'espère pas sur Radio Canut, c'est la pédagogie. C'est le devoir qui, pour les journalistes, les communicants, s'impose au gouvernement. Ainsi, le gouvernement fait preuve de pédagogie parce qu'il est vrai qu'il s'adresse quand même à un peuple d'enfants, quand même, qu'il faut instruire patiemment. Donc c'est ça la pédagogie dont on parlera dans les journaux, peut-être sur BFM, on reparlera de BFM d'ailleurs. Et si la réforme passe, c'est que la pédagogie, rien à voir avec la force, rien à voir avec la police, non. C'est que la pédagogie a triomphé. Bon, d'autres mots un petit peu dont on entendra parler, la crispation. Voilà, la crispation. C'est un mot parmi d'autres pour désigner l'attitude des salariés qui se battent contre les délocalisations, le chômage, le dumping social, la destruction du droit du travail. Voilà. Ils sont crispés, ben on peut les comprendre. Un autre type de terminologie, alors le corporatisme, vous voyez, ça c'est vraiment très très utilisé. C'est un mal qui menace n'importe quelle catégorie de salariés qui défend ses droits. Voilà, c'est un peu ça. Je répète que c'est un lexique cynique trouvé sur le site Acrimed qui critique les médias. Puis, après, seront invités sur différentes antennes des experts. Alors, j'insiste, les experts, c'est pas du tout des scientifiques. Les scientifiques, ils ont une approche scientifique qui est basée sur des textes. Et puis voilà, ils ont une certaine logique. Alors, un expert, quand t'es expert, déjà, en général, t'es plutôt un garçon. Il y a une étude qui a été faite sur les experts qui ont été interrogés suite aux attentats de Bruxelles. Il y en a eu 28. Il y avait une femme et 27 hommes. Donc, alors, quand t'es expert, t'es plutôt un homme, déjà. Et puis, donc, t'es invité par les médias pour expliquer aux grévistes et aux manifestants que le gouvernement a pris les seules mesures possibles dans l'intérêt général. Et tu déplores, entre guillemets, les grognements, parce que, bon, quand t'es dans la rue, c'est que tu fais des grognements, bien sûr. Il y a les juste co-boutistes, et puis tu parles aussi des ultras, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt le dialogue des experts.
Moi, j'ai l'impression que les experts, c'est un peu comme les coachs dans la ville, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études ou quoi que ce soit, il suffit juste que, sous le bandeau à la télé, il y ait écrit « expert 2, 3 petits points », et à partir de là, tu deviens spécialiste dans un truc d'après les médias, mais que...
Oui, on peut, ou c'est un pipologue ou quelque chose comme ça.
Ouais, voilà,
je dis bien un, parce que c'est vrai que c'est surtout des garçons. Et puis, voilà, d'autres choses qu'on verra dans les médias demain, après les manifestations, c'est le micro-trottoir. Alors, le micro-trottoir, c'est un peu pareil que le courrier des lecteurs, mais c'est une technique qui est assez recommandée dans les médias dominants, qui permet en fait de faire dire en 15 secondes à n'importe qui ce que l'on veut attendre, enfin ce que l'on attend. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc juste pour terminer, on vous parlera également des troupes, parce que les troupes, les manifestants, c'est des troupes de manifestants, des troupes syndicales, des syndicats qui se mobilisent avec un verbiage guerrier, et puis des syndicats qui ne contrôlent pas leurs troupes. Alors syndicats ou en tout cas les manifestants qui ne se contrôlent pas eux-mêmes, sans parler de la suite qui va aussi évoquer les usagers. Les usagers, c'est l'adversaire des grévistes. En fait, on peut dire usagers, on dit aussi parfois les élèves qui préparent le bac. Voilà. Ou on dit aussi les parents d'élèves inquiets ou des choses comme ça. Enfin, tout un tas de choses un petit peu qui font pleurer. Et il y a aussi les otages qui, a priori, seront plutôt...
Ah, c'est les mêmes que les usagers.
Les usagers voilà. Pris en otage.
Donc, vous avez lu, Radio Canu a lu le même lexique, et donc on se prépare pour demain, bien sûr.
Bon, alors, c'est juste qu'on a lu un peu partout dans les 30 dernières années.
Voilà, juste pour terminer...
Alors attends, juste avant de terminer, moi j'avais aussi entendu l'autre jour à la radio, alors pourtant un économiste, mais qui expliquait qu'une réforme courageuse, ça voulait dire une réforme dont la majorité des gens ne voulait pas, et qui du coup, en toute condition démocratie, ne devrait juste pas exister.
Mais il y a encore plus fort, c'est une réforme que les gens ne peuvent pas comprendre parce que c'est trop complexe, tu comprends ? Voilà. Si tu as compris que c'est trop complexe, c'est bon.
Donc, tu dois la pédagogie.
Voilà, je termine juste quand même pour parler du terme dont on va beaucoup parler demain, c'est la galère. Alors avant, on parlait de galère quand c'était des conditions d'existence un petit peu délicates pour des gens qui vivotent, qui n'ont pas forcément de revenus, qui ont des boulots précaires, voilà, qui sont dans des quartiers pas forcément gégènes, voilà, qui subissent des temps de transport en commun démesurés tous les jours. Bref, ça c'était la galère. Mais maintenant, la galère, c'est les difficultés de transport les jours de grève. Donc c'est ça qui est important. Voilà. Donc un petit lexique à retrouver. Sur le site d'Acrimed et bien sûr à utiliser pour avoir les oreilles acerbes et dénoncer à nos entourages ce qui sera dit demain.
Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On va manger du bœuf découpé alors qu'il est complètement conscient, de l'agneau écartelé et vivant. Voilà, en tout cas, L214 a à nouveau fait une petite vidéo pirate, un peu avec une caméra cachée, dans un abattoir. Cette fois-ci, c'est l'abattoir de Moléon-Lichard. Et donc, voilà, alors, qu'est-ce qu'on sait sur cet abattoir ? Une petite structure qui emploie 33 salariés. Les viandes qui y sont découpées sont pour partie certifiées label rouge, classé sous le régime européen des indications géographiques protégées. Bon, tout ça, c'est des sortes de petites garanties de qualité, de bon traitement de la viande et tout ça. L'établissement possède également une certification EcoCert pour l'agriculture biologique. Parmi ces 460 clients, on trouve des particuliers en vente directe, des AMAP et quelques grands restaurants parisiens et chefs étoilés. Et ben voilà, et ben cet abattoir, une caméra cachée a vu des gens en train effectivement de couper des pattes d'animaux pleinement conscients, d'écarteler des agneaux, des petites choses comme ça là qui sont théoriquement pas possibles. Alors, l'abattoir, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le directeur de laboratoire est complètement effondré. Lui, il s'est battu pendant des années pour le respect de l'animal. Tu parles de respect de l'animal dans un abattoir. Hein. mais alors maintenant, il est dégoûté que dès qu'il tourne le dos, ses employés fassent n'importe quoi. Donc, il y a lui. Qui est-ce qui est dégoûté encore ? Il y a la Fondation Brigitte Bardot qui porte plainte contre cet abattoir. Bon, l'association L214 qui porte plainte, mais là, c'est un peu... je veux dire, c'est eux qui ont placé la caméra, c'est eux qui ont, qui ont révélé les images. C'est une sorte de démarche un peu logique pour la suite. Et les éleveurs qui filent leurs bêtes à cet abattoir, eh ben, eux aussi ils portent plainte parce que leur confiance a été trahie. Eh les gars, les éleveurs, là, de toute façon, quel que soit l'abattoir et quels que soient les gens qui bossent dedans, vos bêtes, on leur fait jamais du bien dans les abattoirs. Mais alors voilà, c'est le deuxième abattoir qui est filmé avec des trucs vraiment dégueux en quelques semaines, le troisième en quelques mois. Quand on sait que tout ça est filmé en caméra cachée, que du coup ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient inventifs pour rentrer dans l'abattoir, dans l'abattoir, pour poser une caméra, pour pouvoir revenir chercher les images. Que ces gens, c'est pas a priori, c'est pas des espions professionnels, hein, c'est pas le KGB, c'est des militants. Mais bon, des militants inventifs, mais quand même. On peut se dire qu'ils doivent pas non plus avoir déposé des centaines de caméras dans des centaines d'abattoirs, parce que c'est quand même vraiment un sacré taf, quoi, et une sacrée somme d'inventivité, d'aventure un peu illégale. On se dit que le pourcentage de caméras qui donnent ce genre d'image doit quand même être assez élevé. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est que cette plainte ? Enfin, typiquement, c'est celle qui a été déposée par les éleveurs. Hein. Bien sûr, la faute va retomber pour celui-là, comme pour le précédent, sur les gars qui travaillent dans cet abattoir. Les employés, qui effectivement sont vraiment... Enfin voilà, qui torturent les animaux, quoi. Alors, il semble que...
Oui, qui galèrent aussi et qui sont mal payés.
Il semble que pour l'abattoir qui a été filmé il y a quelques semaines, il y avait vraiment un truc de sadisme et de rigolade là-dessus, et que pour cet abattoir qui a été, enfin, dont les images ont été révélées hier, c'est quand même plus que vraiment, ils sont pressés, quoi. Alors effectivement, c'est des gens qui sont pas, c'est pas le haut de l'échelle sociale. Hein. Bon, de toute façon, là, ils vont être virés, ils vont sans doute même avoir des soucis judiciaires, hein, parce que la plainte, c'est vraiment mauvais traitement, blablabla, enfin, ils vont quand même avoir des emmerdes. Mais alors voilà.
Le patron de l'abattoir.
Le patron de l'abattoir, lui, il est un peu embêté quand même parce que son abattoir est fermé aujourd'hui.
Ah oui.
Mais alors par contre, c'est ce qui se passe, c'est que globalement, la filière viande, en fait, elle est responsable de ça, quoi. Et et alors bon, on a vraiment l'impression du coup que ce genre de traitement est vraiment monnaie courante. Enfin, si une association de trois militants a réussi à avoir autant d'images d'autant de laboratoires différents, c'est vraiment que ça se passe partout. Et du coup, c'est pas très très passionnant d'aller chercher le truc du sadisme dans la personnalité des quatre personnes qui ont été filmées.
Et on parle pas des gros abattoirs industriels où là les choses doivent être.
Doivent être sans doute un peu pareil.
Un peu pareil. Voilà, c'est ça que je pense.
Mais alors voilà, le système de la viande, de toute façon en soi, c'est quand même bien l'idée de faire naître des animaux, de les faire grandir. Tout ça pour les buter, c'est-à-dire quand même leur trancher la gorge. Hein, généralement, c'est comme ça qu'ils sont tués. Alors théoriquement, ils sont étourdis avant. Bon. On savait déjà avant que cette histoire d'étourdissement, c'est un peu quand on a le temps, il y a les fois où ça marche et les fois où ça marche pas. Les ratés de l'étourdissement, c'est monnaie courante. Et là, ce qu'on commence à comprendre, c'est que visiblement de manière relativement générale et répandue, l'étourdissement, juste personne n'en a rien à foutre, voire même les gars qui travaillent là-bas s'amusent à ne pas le faire. Alors voilà, encore une fois, hein, comme la dernière fois qu'on en avait parlé, la vraie leçon à en tirer, c'est que vous qui m'écoutez et qui mangez de la viande de qualité, de la viande de ferme, de la viande qui a été bien traitée, tout ça, bah vous êtes tout bêtement des sacrés hypocrites. Vous mangez toujours, dans tous les cas, des bêtes qu'on a fait naître, grandir et auxquelles on a coupé la gorge pour votre unique plaisir. En soi, c'est déjà un peu dégueulasse, mais alors maintenant, en tout cas, vous n'aurez même plus l'excuse de croire une seconde que ça s'est passé sans douleur.
Et j'en rajouterais juste que la revue Ballast, le dernier article de la revue Ballast, revue-ballast.je-sais-pas-quoi, c'est un sociologue, je crois, qui a interrogé sur le fait qu'il y a eu, je crois, c'est 110 000 agneaux qui ont été déglingués pour les fêtes de Pâques, là, et qui se pose la question de savoir comment c'est possible que tous ces humains se réunissent, que le dénominateur commun, c'est de se réunir autour d'un bout de truc qui correspond à du déglingage d'animal, quoi. Voilà, donc sûrement un papier intéressant dans une très bonne revue.
Redis le nom de la revue.
Ballast, B-A-2-L-A-S-T.
Et alors, Hollande aujourd'hui a renoncé à la déchéance de nationalité.
Eh ben dis donc, bravo.
Il était
4 mois après, ouais.
Quel courage.
Ouais, c'est super.
Le courage, non, ouais. Alors, donc, il l'a annoncé à la sortie du Conseil des ministres aujourd'hui. Donc, elle ne sera pas inscrite dans la Constitution. Et justement, c'était face à l'impossibilité de mettre d'accord les deux chambres sur la question donc de la déchéance de nationalité et de la constitutionnalisation de l'état d'urgence que, qu'il a fait ça. Donc, pour récapituler, pour être adoptée, la révision constitutionnelle qu'il avait réclamée après les attentats du 13 novembre devait être votée exactement dans les mêmes termes par les deux chambres, puis par le 3/5 des parlementaires réunis en congrès. Députés et sénateurs n'étaient pas du tout d'accord sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Ils étaient tous d'accord sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. On s'en doute pas. Et le premier article de la réforme qui en comptait deux, mais divergeait sur la question de la déchéance des nationalités. Et ils y étaient majoritairement favorables, mais ils avaient un désaccord par rapport aux personnes condamnées pour terrorisme. Et le Sénat ne voulait pas. Que ça soit écrit.
En fait, ils avaient un désaccord pour les personnes condamnées pour terrorisme et de nationalité française avec une seule nationalité.
Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire.
Ils ne voulaient pas qu'il y ait des gens sans nationalité. Ouais.
Ben voilà, parce que c'était, eux, c'était sur le truc d'éviter toute apatridie de personnes. Voilà. Et donc voilà, et donc je vais, pour finir, citer François Hollande.
Ah, ça tous les jours,
voilà.
J'ai décidé de clore le débat constitutionnel, mais je ne dévierai pas des engagements que j'ai pris pour assurer la sécurité de notre pays et pour protéger les Français contre le terrorisme. C'est mon devoir et c'est ma responsabilité. Je l'assumerai jusqu'au bout et avec la force nécessaire. Donc on voit un président courageux. Puis, je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte. et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Je constate aussi qu'une partie de l'opposition est hostile à toute révision constitutionnelle, qu'elle porte sur l'état d'urgence ou même sur l'indépendance de la magistrature. Je déplore profondément cette attitude. Eh ben oui, François, déplore. Fait que ça, au moins, ça ne fait pas de mal de déplorer.
Ouais, juste pour faire éventuellement de la déchéance d'audiovisualité pour peut-être BFM, BFM TV, juste pour mentionner, vous l'avez sûrement vu ce qui s'est passé le jeudi dernier, il y a un lycéen, on a dû en parler sur cette antenne, un lycéen qui s'est fait exploser la tête par un policier du côté du lycée Henri Bergson dans le 19e à Paris. Et donc pas de bol pour les flics, il y avait des vidéos qui tournaient et donc on a tout vu. Et c'est quand même bien gratiné, il lui défonce juste la tête à ce petit gars qui est debout. Alors les grands médias ont fini par reprendre l'information, ça a même fait l'ouverture du 20h de TF1, voilà. Bon, quand même, je voudrais vous dire du traitement de l'information par BFM TV, que vous connaissez, hein, c'est la je sais pas, c'est TV Serpillière, quoi. Mais en tout cas, c'est spécial pour les businessmen quand même. Ils ont adopté une façon de présenter ça qui est assez sympa. Et c'est marqué en bas, hein, alerte info, vidéo de violence policière présumée sur un lycéen. Voilà, donc c'est des violences policières présumées.
Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, hein, mais on voit hyper nettement un gars qui est un adolescent qui est menotté, qui est tenu par deux flics, un troisième flic qui s'approche, alors que le gars est parfaitement calme, un troisième flic qui s'approche et qui lui met une voilà. Putain de mandale
non, mais c'est
digne d'Astérix.
C'est invraisemblable. Alors le journaliste, je le cite, il dit on se demande bien ce qu'il aurait fallu pour que la vidéo montre plus qu'un lycéen durement frappé, qui s'est retrouvé sur le sol, qui avait du sang partout, pour que les violences soient avérées. Donc peut-être que BFM veut un certificat médical, en fait. Voilà. Alors juste quand même pour enfoncer un peu plus BFM TV, ils ont parlé comme ça, donc je répète, de ce terme, ils ont utilisé la présomption d'innocence, non pas pour des gens, mais pour des violences que l'on a vues. Et par contre, là, dans la même journée, ils ont évoqué des... Et alors, elles sont pas présumées, hein, des incendies de poubelle. Alors, ils n'ont pas dit des présumés incendies de poubelle. Ils n'ont pas non plus parlé de présumés jets d'œufs. Voilà, mais voilà. Donc, c'est vraiment... c'est encore en prélude à demain. On fait un gros smack à BFM TV pour sa façon de présenter les choses.
Allez-y, vous êtes courageux.
Mais du coup, on peut quand même que conseiller de sortir vos téléphones portables, alors non pas pour filmer les manifestants ou manifestantes, parce que pour certaines personnes ça peut être un peu chiant, mais en tout cas de sortir son téléphone dès que vous voyez la police intervenir sur le moindre truc, parce que ils peuvent intervenir, ça peut sembler bénin dans un premier temps, puis dégénérer hyper vite, du coup.
Ou plus simplement, rester autour.
Voilà, ouais, voilà. C'est ça.
Et après, si vous pouvez faire le petit montage et garder les 16 secondes comme ça a été fait là, peut-être que vous allez vraiment faire un max de vues.
et en tout cas, et c'est toujours bon de le préciser, c'est quand la police vous dit que vous avez pas le droit de les filmer, c'est complètement faux. Vous n'avez pas le droit d'après de mettre la vidéo avec leur nom et leur adresse sur internet, mais vous avez complètement le droit de filmer un flic dans l'exercice de ses fonctions.
Et bah,
vous êtes complètement protégé par le droit pour ça.
Et puis surtout qu'eux, ils ne s'empêchent pas de nous filmer aussi. Hein.
C'est ça. Eh ben on va parler d'une petite histoire où les flics doivent avoir bien les boules, puisqu'une personne mise en examen pour un braquage avec arme et qui se trouvait être en période de récidive légale est sortie par la grande porte du tribunal alors que l'avenir lui promettait la prison. Et c'est grâce au juge d'instruction, alors une fois n'est pas coutume, hein, qu'une fois qu'un juge d'instruction aide à libérer quelqu'un plutôt qu'à le condamner, qui pendant la première audition du prévenu a oublié d'enregistrer les échanges, procédure obligatoire depuis 2008. Alors l'avocat grassement payé a tout simplement dû arriver à l'audience de son client et dire au juge, bon bah avant qu'on commence et qu'on perde notre temps, vous pouvez le relâcher tout de suite mon client pour nullité de procédure parce que vous n'avez pas respecté l'enregistrement de cette première audition. Donc voilà, donc les juges ont dû le relâcher faute de choix.
À Paris, ce matin, les flics ont commencé à évacuer le campement d'environ 500 migrants migrantes qui squattent sous le métro aérien station Stalingrad depuis des mois déjà. Alors comme d'habitude, les services de l'État prétendent que c'est dans l'intérêt des migrants et pour les emmener dans des endroits où ils vont être hébergés, des hôtels, des centres d'hébergement qui sont venus les chercher en bus. Alors ça quand même, on a vraiment rarement vu que des gens qui habitent dans un bidonville et à qui on propose des places d'hébergement qui auraient l'air un tout petit peu valables, on ait besoin de bus pour les emmener parce que généralement on leur dit plutôt où ils doivent aller et ils sont très contents d'y aller. Non mais là quand même... Ouais.
C'est les bus Macron, bus. Ouais. C'est peut-être l'effet bus Macron.
Ouais, ça se trouve, c'est ça. C'est grâce au nouveau bus pas cher de Macron. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment réussi à en avoir. Mais sur le site Paris Lutte Info, les gens qui racontent ça disent qu'eux, ils se souviennent de l'évacuation d'un autre endroit qui s'appelait le Jardin des Halles. C'était l'été dernier. Et qu'ils ne sont pas dupes parce que, à l'époque du Jardin des Halles, les migrants migrantes avaient été invités à monter dans des bus aussi pour soi-disant aller vers des centres d'hébergement. Alors, il y en a certains qui sont effectivement allés vers des centres d'hébergement, mais il y en a d'autres que les bus ont emmenés dans une partie du centre de rétention de Vincennes où, alors en fait, les migrants n'étaient pas vraiment enfermés, mais ils étaient à peu près enfermés. En tout cas, pour rentrer là, on leur confisquait leur téléphone. Il y avait des horaires très, très stricts. Que certains autres ont été dans certains centres dont les règles très strictes, mais les ont aussi fait qu'en fait, ils sont juste barrés. D'autres bus ont juste emmené les personnes dans la campagne lointaine et les ont largués au milieu de nulle part.
Cette histoire de le bus, ils l'ont fait aussi à Calais ces derniers mois où ils ont, ouais. Ils ont éparpillé les gens un peu partout en France dans des centres de rétention.
Enfin bref, avec l'expulsion du campement de Stalingrad, le gouvernement continue sa politique lamentable en termes d'accueil de ces personnes en transit. Et l'article sur parislutte.info se finit par « Honte à la France ».
Et quand même pour préciser, il y a quand même 100 personnes qui se sont retrouvées sur le carreau, là, du coup il n'y avait pas de place d'hébergement, alors d'hébergement avec beaucoup de guillemets, mais... Et du coup, la mairie et la préfecture ont déclaré que c'était une erreur de comptage.
Ah, ça c'est sur l'expulsion de Stalingrad.
Oui.
Ok.
Oui, juste quelques mots pour parler d'une initiative qui s'appelle Prison Insider, plus exactement un site web qui est sur le point de naître. Alors, c'est une information que j'ai glanée sur le site Bastamag. Je vous cite un tout petit peu la présentation de ce site Prison Insider. Donc, ça veut dire les gens qui... Enfin, Insider, c'est quand on est dans la prison. Un site qui aurait pour objet de faire connaître les conditions de détention et de promouvoir les droits et la dignité des personnes privées de liberté partout dans le monde. Donc ce serait un site international de ressources et d'échanges sur les prisons et qui devrait naître au printemps 2016. Donc je crois qu'il y a une opération de crowdfunding, c'est-à-dire qu'ils recherchent des financements. Donc au début, ce serait en français, anglais et en espagnol. Donc Prison Insider le précise, hein, j'ouvre les guillemets, ils sont là pour dénoncer des pratiques cruelles, inhumaines et dégradantes dans les prisons. Les droits humains ne se divisent pas, ne se négocient pas, personne ne peut admettre de vivre dignement. Personne ne peut admettre de vivre dignement quand d'autres vivent dans l'indignité. Il précise aussi que plus de 10 millions de personnes sont détenues sur la planète. Certaines sont enfermées dans les caves de locaux indicibles, d'autres sont à ce point entassées qu'elles doivent être debout par alternance pour que leurs co-détenus puissent s'allonger. Voilà, il y a aussi celles et ceux qui périssent dans l'isolement pendant des années. Voilà donc ce site Prison Insider qui est une initiative. Leur idée, je cite, c'est pas de réinventer l'eau chaude. L'information sur les prisons existe, mais disent-ils, elle est disséminée et l'idée c'est de monter donc une ressource centralisée afin que chacun et chacune puisse accéder à une information pointue, détaillée, mise à jour. Donc probablement un site dont il faut se préoccuper, Prison Insider.
Allez, encore une histoire. Ça se passe en Allemagne. Alors, c'est un gars qui s'appelle Stefan Jaksch et qui a eu un accident de voiture. C'était, bah tiens, j'ai pas du tout noté la date, mais c'était il y a une semaine, quelque chose comme ça. Sa voiture est sortie de la route, elle s'est encastrée dans un arbre et lui, il s'est retrouvé inconscient. Là-dessus, il y a un minibus qui passe sur la même route. Peu après, deux gars qui voient la voiture, qui descendent du minibus, qui vont vers lui, qui sortent de sa bagnole, qui lui prodiguent les premiers soins, qui appellent les secours. C'est sans doute grâce à eux qu'il est aujourd'hui encore en vie. Alors voilà, bon, une histoire d'accident de voiture. Pourquoi est-ce qu'on en parle au-delà du village où ça s'est passé ? Eh bien, c'est parce que ce Stefan Jaksch, c'est pas n'importe qui, c'est le candidat du Land de Hesse pour le NPD. Le NPD, c'est un parti d'extrême droite. Mais alors, un parti de l'extrême droite dur. C'est quand même, en France, il serait un peu à la droite du GUD. C'est vraiment un parti de skinhead néo-nazi. Ouais. C'est une sorte de parti qui a une longue histoire en Allemagne de débat public. Faut-il interdire le NPD? Et où vraiment, enfin, il y a tout le temps des tas de gens qui trouvent que oui, il faudrait l'interdire. Après, légalement, c'est compliqué, blablabla. Mais c'est vraiment des nazis, quoi. Des gens qui se revendiquent, enfin, qui du coup, comme c'est l'Allemagne, se revendiquent pas explicitement nazis, mais voilà.
C'est le cas,
ouais. Ils font quand même ils lèvent le bras pendant les manifs, quoi. Aux dernières élections, quand même, dans le Land de Hesse, ils ont fait 10%. Et donc, ce Stefan Jaksch qu'on vient de sortir de la voiture, il a fait 10%. Et alors, ces deux gars qui sont arrêtés, qui sont descendus de la camionnette et qui lui ont sauvé la vie, c'était qui ? Eh bien, eux, c'était des réfugiés syriens. Alors, voilà, dire que quelques jours plus tôt, Jaksch et ses amis néo-nazis scandaient dans une manifestation que les réfugiés accueillis en Allemagne étaient des envahisseurs, des parasites sociaux ou encore des primates sans foi ni loi. Mais ben, ce fait divers de rien du tout a quand même bien fait rigoler les réseaux sociaux et les médias allemands. Face à cette ironie du sort, certains se demandent si Jaksch va changer d'opinion. Alors, son accident n'aura pas été vain, affirme une lectrice de la Frankfurter Rundschau. Est-ce qu'il va continuer à poster sur Facebook que l'intégration des réfugiés est un génocide ? Voilà. Lui, entre-temps, il a repris conscience et finalement, ça le fait pas trop rigoler. Il préfère dire qu'il était inconscient, que du coup, il sait pas. Il n'a pas de souvenir, il n'est pas sûr de qui l'a sauvé ou quoi. En tout cas, comme il n'a pas l'habitude de faire confiance dans les médias, c'est pas parce qu'il a lu dans un journal que c'était des Syriens qui l'avaient sauvé qu'il le croit. Alors voilà, bon, quoi qu'il en soit, comme il y a quand même que lui dans toute l'Allemagne, il risque de perdre un peu de sa crédibilité de faf. Et vu comme les journaux allemands en cause, on se dit que malgré tout, ces deux réfugiés ont finalement peut-être bien fait de le tirer de là.
Et du coup, tant qu'on est dans les petites histoires par rapport aux réfugiés en Allemagne, il y a eu parce que je sais pas si vous avez entendu, il y a plein d'espèces de fausses rumeurs qui tournent sur les réfugiés, et particulièrement en Allemagne, où notamment il y a des qui tournent gros, pour la plupart souvent sur Facebook et tout ça là, avec par exemple des photos de tickets comme ça pour que les Syriens puissent aller dans des restaurants, puissent aller aux putes comme ça, gratos, tout ça financé par le gouvernement et tout. Bon, il s'avère qu'à chaque fois c'est faux. Et du coup, il y a une personne assez inventive comme ça sur Facebook qui a fait partager un truc comme ça hyper raciste et tout pour dire à quel point comme ça les réfugiés étaient hyper bien accueillis par rapport aux Allemands de souche. Et du coup, il a attendu que le truc prenne de l'ampleur, enfin sa photo soit partagée sur plein de comptes Facebook et tout. Et en fait, quand vous partagez une photo sur Facebook, du coup, ça apparaît sur votre compte, du coup tout le monde peut la voir. Et si cette personne change la photo, et ben en fait l'image qui apparaît sur votre truc, et ben ça change aussi, quoi. C'est, en fait, c'est juste un espèce de lien direct.
Partager ce qu'ils ont renvoyé, c'est l'image. Enfin, ils renvoient en continu l'image que tu mets.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, cette personne a attendu que cette photo soit partagée par des milliers et des milliers de gens pour en mettre une autre qui disait, en gros, je me souviens plus exactement, genre, je suis un gros con raciste nazi qui croit n'importe quoi sur Internet. Et du coup, il y a eu plein de comptes comme ça qui se sont retrouvés un peu genre piratés entre guillemets avec ce genre de truc. Du coup, c'était assez rigolo.
Mais quand même, vous l'avez sûrement noté, même les robots créés de toutes pièces par Microsoft
sont antisémites.
Arrivent en 2-2 à devenir complètement débiles et donc de fait nazis, antisémites. Et voilà, vous l'avez peut-être suivi cette histoire. Oui, non.
Oui.
Oui, non. Et bien, en fait, Microsoft a monté un faux, une espèce de fausse intelligente, fausse intelligence artificielle qui était censée interagir au travers des réseaux sociaux avec toute la planète. Sauf que cette intelligence artificielle, elle a fait comme, malheureusement, bah, peut-être les 10% des intelligences humaines. Elle a écouté que des conneries qui lui étaient envoyées, en particulier comme quoi Donald Trump était super bien, que les féministes, il fallait tous les brûler, etc. Et donc cette intelligence artificielle a donc réussi à devenir un prototype nazi, à tel point qu'ils ont été obligés de retirer cette intelligence artificielle au bout d'un mois, d'une semaine, d'un jour, pardon. Donc, quelque part, ça prouve comment une certaine logique invraisemblable peut être avalée par un robot. Donc, c'est quand même pas bien... pas bien glorieux pour je sais pas qui,
pour Facebook
d'une manière générale, et pour les robots, et puis pour les, le fait que penser nazi, c'est, ça, ça peut être fait par un robot, quoi.
Et alors, je voulais vous parler un peu de la sortie du livre Les Blancs, les Juifs et nous de Ouria Boutelja. Et notamment bah, parce qu'elle va venir à Lyon ce samedi 2 avril à 15h. Ça sera à la librairie Terre des Livres, rue de Marseille. Donc je cite l'intention de Boutelja avec ce livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que je partage l'angoisse de Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau est long à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Le monstre fasciste né des entrailles de la modernité occidentale. D'où ma question. Qu'offrir aux Blancs en échange de leur déclin et des guerres qu'ils annoncent, une seule réponse, la paix, un seul moyen, l'amour révolutionnaire. Donc c'est du point de vue de l'indigène qu'elle évoque le pacte républicain, la Shoah, la création d'Israël, le féminisme et le destin de l'immigration postcoloniale en Occident. Et aussi pourquoi j'en parle, en plus de vous dire d'aller à la librairie Terre des Livres ce samedi, c'est aussi parce que donc, j'ai trouvé un article qui est paru dans... sur le blog lundi matin de Azan, l'éditeur de Boutelja, pour un peu soutenir l'auteur, puisqu'elle a quand même reçu un certain nombre, les médias l'ont, à la sortie du livre, l'ont vraiment poussé dans ses retranchements. Et donc je vais vous lire. Dans Ce soir ou jamais, le 18 mars dernier, un certain Thomas Guénolé s'est livré à une attaque d'une rare violence contre Ouria Boutelja, à propos de son livre « Les Blancs, les Juifs et nous ». Il lisait ses notes, il avait bien répété. Ouria était antisémite au point de vouloir envoyer les Juifs en camp de concentration. Elle était misogyne et homophobe, communautaire et raciste. Elle les délivrait à qui voulait le permis de violer. On dira que peu importe ces élucubrations d'un folliculaire obscur, mais on aura tort. Ces propos ont été repris de façon venimeuse par Marianne et par l'Express, et des extraits de l'émission circulent aujourd'hui sur quantité de sites qui, eux, sont vraiment racistes. Du coup, Ouria, qui est depuis longtemps attaquée en parole et en acte, si elle reçoit de toutes parts des encouragements d'antiracistes, écope aussi d'une foule de messages insultants et menaçants. Pourquoi Ouria, qui n'est pas la seule à dénoncer le racisme décomplexé qui sévit actuellement en France, est-elle une cible privilégiée ? La réponse me semble claire. C'est une femme, elle a un maintien noble et fier, elle s'exprime avec tranchant et en plus elle est arabe, c'est trop. Elle ne se tient pas à la place qui lui revient, elle bouscule la hiérarchie des rapports sociaux, bref, elle exagère. L'équipe de La Fabrique, qui a édité le livre d'Ouria, la soutient et la défendra contre les attaques de ceux qui sont tout autant nos ennemis que les siens. La libre expression en France ? Point d'interrogation. Donc cette rencontre aura lieu donc avec Ouria Boutelja, avec Georges Guimpel, porte-parole de l'UJFP à Lyon et le Centre d'études postcoloniales de Lyon. Et donc il vous est vivement conseillé de réserver votre place au 09 505 884 22 ou terredeslivres@free.fr.
Alors moi, quand même bien préciser que tout le monde, même dans cette pièce où on est en train de faire le Canu Info, n'est pas à donf de Boutelja et de sa manière de voir le monde, de sa manière de poser les questions, plus encore que de sa manière d'y répondre en réalité. Mais voilà, ce qui n'empêche pas d'aller la voir, hein, mais peut-être en gardant une possibilité d'un petit œil critique.
Eh bien, ce Canu Info touche à sa fin dans sa diversité.
Attends, j'ai encore une info hyper intéressante, vu qu'on a encore... À Tremblay en France, selon les informations du Parisien, plusieurs voleurs ont réussi à faire main basse, c'était le 20 mars dernier, sur un camion frigorifique qui contenait une importante quantité de yaourt. Comme 16 tonnes de yaourt. Ils ont piqué ça dans un entrepôt de la société Danone. Ce type de
vol...
Hein,
bien sûr, j'ai dit non.
J'avais dit que je le dirais. C'est cette pauvre société Danone qui s'est donc fait voler 16 tonnes de yaourt. Et le préjudice est estimé à 50 000 euros. Ce type de vol est extrêmement rare, a confié une source proche de l'affaire. Tu m'étonnes, c'est qu'une fois que tu as 16 tonnes de yaourt sur les bras, je me demande bien ce que t'en fais.
Pendant qu'on est dans les infos un petit peu courtes et un petit peu un petit peu stupide quelque part, juste pour préciser encore ce qu'a fait la police du côté de Valence, ils ont fait très très fort. Ils ont été devant une marée humaine d'une cinquantaine de personnes. Je répète, une cinquantaine de personnes qui agissaient avec des tracts dans le centre-ville le 28 novembre 2015. Donc ils sont arrivés. Ils ont dit que les manifestations non prévues, c'était pas possible. Et alors, c'était des tracts qu'on soutient un petit peu du côté de Canu. Il y avait par exemple le tract de sortir du nucléaire, Dromardèche, qui disait Côte-du-Rhône et Vallée de la Tôme, qui rappelait que ces deux départements comptent à eux seuls 10 réacteurs nucléaires, j'ouvre les guillemets. Si le pire devait arriver, catastrophe naturelle, acte de malveillance, perte de contrôle des exploitants, 2,6 millions de personnes verraient leur vie anéantie. Voilà, donc ça c'était dans le tract. Et la police a dit qu'il fallait absolument partir, donc ils ont refusé. Et donc, il a fallu un chef, donc la police a voulu un chef, puisque c'est forcément leur vision des choses. Donc c'est un valeureux militant donc, du réseau Sortir du Nucléaire qui s'est dénoncé, et donc qui a été stratocatapulté immédiatement au commissariat. Et après au tribunal, et heureusement le tribunal, ils ont dû se dire que c'était complètement débile cette situation, ils lui ont donc juste donné un simple rappel à la loi. Voilà.
C'est tout. Bien, bon bah cette fois c'est déjà 19h48, hein, voilà, si vous voulez avoir droit à un petit peu de musique avant l'idée noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et ben il va falloir qu'on vous quitte.
C'est ça. Et bien, comme on a un peu de temps, moi, je pourrais dédicacer ce Canu Info à la plus jeune manifestante de Lyon.
Voilà. Ah, mais qui est pas encore, qui sera manifestante demain, tu veux dire.
Ouais, mais voilà. Qui était manifestante la semaine dernière aussi.
Ah ouais.
13h30, manufacture des tabacs.
Voilà, et ben merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec
ciao, et à la semaine prochaine. Sans doute, à ce moment-là, la révolution aura largement commencé et Radio Canu sera peut-être un des plus gros médias de la place.
En attendant, à demain.
Au revoir.